Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Courtin et je suis depuis 33 ans ancien de cette église de Vendeuvre. Alors, nous avons depuis ce matin entendu trois beaux témoignages, enfin deux, parce que maintenant c'est le mien. Voilà, deux beaux témoignages de ce grand Dieu qui a tout créé et veut par-dessus tout nous rencontrer. Et j'aimerais commencer ma prédication de ce matin par une question. Y a-t-il parmi nous encore ce matin des personnes qui doutent de l'existence de Dieu? Oui, ben, c'est normal. Hein. Si je pose la question, ce n'est pas pour culpabiliser les personnes, c'est simplement pour dire on a le droit de douter de l'existence de Dieu. Alors moi, personnellement, je ne suis pas né croyant et chrétien, loin de là. Hein. Je le suis devenu par ma rencontre avec Dieu en 1986. J'avais alors 34 ans. Vous pouvez compter là ce que j'ai maintenant. Cette rencontre que Christelle a vécue et racontée, eh bien, moi, je l'ai faite alors que je vivais un moment très, très douloureux de ma vie. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu mon témoignage, ça sera peut-être redondant, mais c'est important quand même de préciser comment Dieu m'a rencontré. Alors, pour tout vous dire, à l'époque, moi, je me trouvais à Quito. Christelle, c'était en Espagne, moi, c'était en Équateur, la capitale de l'Équateur. Qu'est-ce que je faisais là? J'étais en vacances. Donc, dans une chambre d'hôtel, et j'étais tellement mal dans ma vie que je voulais en mettre fin à ma vie, je voulais mourir. Je voulais vraiment en finir avec la vie. Alors, je me suis mis à crier à Dieu, à ce Dieu dont on m'avait parlé et on m'avait dit, tu sais, c'est un Dieu vivant, adresse-toi à lui et il pourra t'aider. Franchement, je ne l'avais jamais fait. Parce que je pensais, Daniel, c'est quand même stupide de s'adresser à l'invisible et puis ta prière, elle va s'arrêter au plafond. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais ce soir-là, vu ma situation, eh bien, j'ai crié à Dieu et Dieu m'a répondu. Alors, je vous rassure, Dieu ne m'a pas parlé pendant trois quarts d'heure. Pour me faire une leçon de morale ou un cours de théologie, non, pas du tout. Il m'a dit clairement et simplement ces cinq mots qui ont totalement changé, transformé ma vie. Daniel, pourquoi écoutes-tu Satan? Voilà. Ça, c'est une phrase que je n'aurais même pas pu inventer, parce que Satan, ça ne disait rien. Et franchement, ce n'était pas du tout la phrase que j'aurais dit. Ces cinq mots ont résonné en moi bien plus fort qu'un très très long discours, parce que j'ai alors compris trois choses. La première, c'est que Dieu existe, il est vivant, et il me connaît par mon prénom. Mais c'est incroyable. Dieu entend ma prière, même mal formulée, et puis il y répond. Et puis Dieu cible ce qui ne va pas dans ma vie et m'encourage à le changer en le suivant. Non, mes amis, après ma rencontre avec Dieu, ma vie a progressivement basculé et Dieu m'a transformé radicalement. Il m'a fait comprendre qu'à présent, eh bien, nous allions nous rencontrer et parler ensemble par la prière, mais aussi par la lecture de sa parole inspirée, qui est la Bible. La Bible, étant plus jeune, j'avais bien essayé de la lire à plusieurs reprises, mais franchement, cela n'avait pas été un franc succès. À vrai dire, je n'y comprenais pas grand-chose. Les textes me paraissaient énigmatiques, les paraboles incompréhensibles. La vie de Jésus se terminait aussi par un échec, la croix. Et puis l'Ancien Testament me paraissait une histoire hors du temps et d'un autre temps. Autour de moi, j'entendais bien certaines personnes dire oh, « La Bible me parle, c'est la parole de Dieu ». Moi, je me disais, elles ont quand même de la chance. Hein. Moi, elles ne me parlent pas. Et non seulement elles ne me parlent pas, mais en plus, j'ai même pas envie de la lire. Franchement, je n'avais pas envie de la lire. En réalité, après ma rencontre avec Dieu, j'ai pu comprendre pourquoi, à l'époque, la Bible ne me parlait pas. Tout simplement parce que la parole de Dieu, elle est inspirée. Vous avez déjà, je suppose, entendu cette expression. L'inspiration, selon le dictionnaire, c'est un souffle émanant d'un être suprême. La Bible dit elle-même, 2 Timothée 3,16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Alors quand Dieu nous parle, il le fait avec toute la puissance de son esprit. Ça s'appelle le langage spirituel. Dans ce langage, Dieu exprime sa propre pensée, qui n'est pas du tout la nôtre. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, voilà ce qui est écrit. Ésaïe 55, verset 8. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Donc on n'a pas les mêmes pensées, c'est clair. Ce sont les pensées de Dieu, le langage spirituel, qui inspire la Bible. Et ce langage spirituel, eh bien, en quelque sorte, il est codé. Il est transmis par le Saint-Esprit qui exprime la pensée profonde de Dieu, celle du Christ. Si je n'ai pas les pensées de Dieu, si je n'ai pas en moi et avec moi le Saint-Esprit pour décoder, eh bien, je ne peux tout simplement pas en comprendre le sens profond. Un exemple, hein, ça m'est déjà arrivé, mais regardez un match de foot sur Canal+, quand c'est codé. Vous tenez 5 minutes, hein. Moi, j'ai réussi à tenir un peu plus. Quand je lisais « Christ s'est appauvri pour nous enrichir », je ne comprenais pas du tout le sens de cette phrase. Par contre, aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit qui habite en moi, depuis ma rencontre avec Dieu, je comprends que Jésus, le roi des cieux, est venu sur cette terre, s'est humilié pour m'offrir en richesse la vie éternelle. Vous voyez, avant je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Quand je disais « Jésus a triomphé de Satan à la croix », moi je voyais la croix comme un échec. Je ne pouvais comprendre, alors qu'aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai compris qu'en mourant sur la croix, Christ s'est chargé de mes péchés et m'a libéré de Satan, le prince du péché. Vous savez, même à l'époque de Jésus, hein, les religieux juifs n'avaient pas le Saint-Esprit et ils ne pouvaient pas comprendre les paroles que prononçait Jésus. Quand Jésus disait « Ah, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel et ce pain, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde », eh bien, selon la Bible, ces religieux pensaient « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Dans sa pensée profonde, Jésus ne nous invite pas, bien sûr, au cannibalisme, à manger sa chair, mais à croire en sa mort pour nos péchés et en sa résurrection pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous voyez ? Alors vous le voyez, chers amis, si la Bible, la parole de Dieu, est inspirée, elle l'est par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité et qui est Dieu lui-même. Cette inspiration dont j'ai été témoin, le témoin privilégié, montre l'existence et la présence indispensable du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Alors le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on le reçoit? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Le Saint-Esprit se reçoit en croyant dans son cœur que Jésus est mort sur la croix pour nous libérer du fardeau de nos péchés. C'est simple. Moi, une fois, je disais à mon chef, je disais, il te suffit de croire et tu verras, le Saint-Esprit va rentrer en toi. Il me dit, c'était si simple, tout le monde le ferait. Hein. C'est en croyant que l'on reçoit le Saint-Esprit. Jean 14, 16, « Je demanderai au Père, dit Jésus, de vous donner l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, c'est-à-dire à ceux qui ont cru, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Il sera en nous. Deuxième question de ce matin, voulez-vous recevoir en vous le Saint-Esprit? Voulez-vous recevoir en vous le Saint-Esprit? Cela peut se faire maintenant. Vous en connaissez désormais le chemin. Il suffit d'ouvrir votre cœur en croyant que Jésus est mort pour prendre sur lui vos péchés. Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit ? La parole de Dieu n'est pas seulement inspirée, elle est aussi vérité. Psaume 119, verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité. » Mais que vaut ce témoignage, hein ? C'est la Bible qui le dit, on n'est pas censé la croire. Ce qui prouve que la parole de Dieu est la vérité, c'est que lorsque Dieu dit ou promet une chose, cela se réalise. Voilà ce que Dieu affirme dans la Bible, en Ésaïe 46, 10. Il dit « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre ». C'est clair. « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu, par définition, est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient ? Ça veut dire qu'il sait tout du passé, du présent et de l'avenir. Si Dieu existe, s'il est authentique et sa parole est vraie, eh bien tout ce que Dieu dit doit s'accomplir et pouvoir être vérifié comme vrai. Alors, on sait toutes et tous combien c'est compliqué, difficile de prévoir l'avenir. Hein. Avec un peu de chance, on peut donner un bon pronostic au foot, par exemple. Certaines voyantes, certains marabouts arrivent parfois à prévoir un événement qui arrive. Mais la Bible, dans l'Ancien Testament, contient 2000 prophéties qui, pour plus de la moitié, se sont déjà réalisées dans le moindre de leurs détails. Et d'autres, qui touchent au retour de Jésus à la fin des temps, sont à venir. Alors, comme nous sommes ce matin limités par le temps, j'aimerais vous donner simplement quelques-unes de ces prophéties qui touchent à la première venue de Jésus et qui, bien sûr, se sont réalisées dans les moindres de leurs détails. Dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 1, dans l'Ancien Testament, eh bien, Michée annonce 700 ans avant la naissance de Jésus, « Toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira celui qui régnera sur Israël. » 700 ans avant, la Bible annonce la naissance de Jésus à Bethléem. Il y a une chance sur un million que ça arrive. Hein. Dans le livre d'Ésaïe, Ancien Testament, au chapitre 7 et au verset 14, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils. » 740 ans avant la naissance de Jésus, la Bible dit que Jésus naîtra d'une femme vierge, Marie. Dans le livre de Zacharie, Ancien Testament, 9-9, annonce 480 ans avant Jésus-Christ l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, monté sur un ânon. Le roi David, dans le psaume 41, verset 10, 1000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans avant, hein, décrit la trahison de Judas. Plus fort encore, David décrit dans le psaume 22, verset 15 à 18, l'agonie de Jésus sur la croix, alors que ce supplice n'existait pas à l'époque de David. Il faut le faire. On va terminer par quelque chose d'encore plus extraordinaire. Dans le psaume 34, verset 21, David, 1000 ans avant Jésus-Christ, annonce qu'aucun de ses os sera brisé sur la croix, alors que les Romains brisaient systématiquement les jambes des crucifiés. Et là, comme ça, on peut aller sur 1500 prophéties. On pourrait passer en revue chaque prophétie, mais nous serions encore là demain matin, et le but de ce culte, bien sûr, n'est pas de vous épuiser, mais de vous exhorter. Hein. Non, ce que je veux montrer ce matin, c'est que si vous allez consulter un devin qui vous annonce avec précision 200 événements de votre vie et que ces événements se réalisent parfaitement, est-ce que vous lui ferez confiance ? Bien sûr que oui. Eh bien, quand plus de 1500 prophéties de la Bible se réalisent, parfaitement jusque dans les moindres des détails, eh bien, comment ne pas croire en Dieu, lui faire confiance dans toute sa parole ? Comment ne pas croire à l'inspiration et à l'authenticité de la parole de Dieu, la Bible ? Comment ne pas être interpellé par tant d'évidence ? Moi, j'ai été interpellé par tant d'évidence. Et personnellement, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et je crois que par elle, Dieu nous parle. Personnellement, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il les a portés à la croix. Personnellement, je crois que Jésus est ressuscité et que nous ressusciterons tous. Personnellement, je crois en la vie éternelle promise par la parole de Dieu à toutes celles et ceux qui croiront. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement inspirée et vraie, elle est aussi vivante. C'est-à-dire qu'elle porte en elle la vie et qu'elle nous parle et parle de nous. Et la Bible le dit elle-même, Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. Alors je reviens à ma vie, hein. J'étais tout jeune chrétien et quelques mois après ma rencontre avec Dieu en Équateur, eh bien, j'ai à nouveau entendu distinctement et longuement la voix de Dieu, pour la deuxième fois. À cette époque, je vivais en concubinage avec une charmante jeune femme, c'est toujours charmante, Wardia, et durant toute une nuit, j'ai clairement entendu la voix de Dieu qui martelait ces trois mots. Séparation, purification, union. Séparation, purification, union. Toute la nuit. Ça ne m'a pas réveillé, mais c'est toute la nuit que je l'ai entendu. Et Dieu m'informait des trois périodes qu'il prévoyait pour ma vie. Et qui commençaient, hélas, par une séparation. Wardia et moi, nous nous sommes séparés dans la semaine qui a suivi. Moi, c'est vrai, je n'avais pas trop envie de me séparer, moi. Franchement, je n'avais pas trop envie. J'étais amoureux et je n'avais pas trop envie. Mais j'entrais, il le fallait, dans ma seconde phase de purification, où Dieu allait me purifier. Cette période, sans que je le sache, allait durer 3 ans. Elle s'est caractérisée par 2 choses. Vous savez, pour Dieu, une séparation, c'est une séparation. Hein. Pour moi, une séparation, c'est pas vraiment une séparation. Mais pour Dieu, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et Wardia, de qui j'étais follement amoureux, m'a dit, Daniel, tu ne seras jamais mon mari. Bon, comme quoi, il ne faut pas toujours croire les femmes. Puis en même temps, Dieu a commencé à me purifier par le Saint-Esprit, par la lecture de sa parole que je lisais frénétiquement, 3 chapitres par jour. C'était miraculeux. En un an, j'ai lu entièrement la Bible 3 fois en 3 ans. Pensez donc, moi je lisais jamais. Si, je lisais l'équipe, mais jamais complètement, et puis France Foot. Mais je n'ai jamais terminé un livre de ma vie. Et là, je lisais comme un fou. Oui, la parole de Dieu, des fois je suis un peu ému, excusez-moi. Oui, la parole de Dieu, la parole vivante, s'est répandue en moi comme une eau purificatrice. Jésus dit, celui qui boira cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4,14. Et je peux vous assurer que la parole de Dieu m'a lavé, purifié de mes vaines pensées, de mes ténèbres intérieures, parce qu'il y en avait à l'intérieur. La parole vivante, la parole de vie a semé la volonté de Dieu en moi, parce que la parole de Dieu est agissante. Elle ne laisse pas insensibles celles et ceux qui la lisent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu l'exprime magnifiquement dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, versets 10 et 11. C'est comme une sorte de parabole, c'est beau. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli tous mes desseins. Dieu a créé en moi le désir de lire la Bible, afin de me purifier et de faire germer en moi sa volonté. Dieu a toujours parlé à son peuple de différentes manières, et en particulier par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par Jésus qui est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Durant ma phase de purification, non seulement la parole de Dieu m'a lavé intérieurement, a planté et fait germer en moi la pensée de Dieu, mais par elle, Dieu m'a parlé, comme un père parle à son enfant. Parce qu'on est les enfants de Dieu, et Dieu nous parle comme à des enfants. 1 Jean 3:1, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, et vous l'êtes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est parce qu'il n'a pas connu Christ. On devient enfant de Dieu en croyant, tout simplement. Pour celles et ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas rencontré Dieu, c'est vrai que la Bible est une lettre morte, un livre du passé qui n'a aucun intérêt. Mais pour celles et ceux qui croient, la parole de Dieu est vivante. C'est un livre du passé qui parle du présent et au futur, qui parle de nos vies et répond à nos questions, à nos problèmes. Alors, je reviens à mon petit témoignage. Cela faisait à présent 2 années que j'étais dans ma phase de purification. Et puis, je trouvais vraiment que le temps était long. Alors, je ne voyais plus Wardia, dont j'étais toujours amoureux. La promesse de Dieu, union, ne venait pas. Alors, j'étais découragé. J'étais même des fois plus que découragé. J'étais en pleurs. Alors, j'ai à nouveau crié à Dieu pour qu'il me parle. Et encore une fois, je n'ai pas été déçu. Ce matin-là, je lisais le chapitre 31 du livre de Jérémie dans la Bible, et le Saint-Esprit, à travers un texte écrit il y a 2640 ans, je répète, 2640 ans, m'a révélé le plan que Dieu avait préparé pour ma vie. Vous vous rendez compte ? Dans ma tête, j'entendais « Daniel, prends ton crayon et souligne ». Voilà ce que Dieu m'a fait souligner. Versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quelle déclaration d'amour! Dieu me rappelle qu'il m'a rencontré en Équateur, dans un profond désert de ma vie, et qu'il m'aime pour l'éternité. Voilà pourquoi il m'a fait grâce. Verset 13, que j'ai souligné. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Dieu a un projet de consolation, de bonheur pour Wardia et moi. À présent, Dieu s'adresse à moi personnellement. Verset 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Pensez donc, il a fallu 3 ans pour me purifier. C'est dire si j'étais chargé. Si j'étais chargé des péchés de ma jeunesse, je me suis repenti de ma vie passée et j'ai reçu le pardon de mes péchés en acceptant d'ouvrir mon cœur à Jésus-Christ. Puis après, c'était au tour de Wardia. Verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée ? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme cherchera l'homme. Je savais que Dieu me parlait de Wardia, et il me disait, ce n'est pas toi qui iras la chercher, c'est elle qui te cherchera. Alors là, moi, la connaissant, elle m'avait dit, tu ne seras jamais mon mari. En plus, c'est une maghrébine. Enfin, j'ai rien contre les maghrébines, au contraire, hein, je les aime beaucoup. Et ce n'est pas les maghrébines qui viennent chercher les hommes. Hein. Alors je me suis dit, là, peut-être que Dieu il s'est un petit peu trompé, parce que c'est possible que là, il ait peut-être fait une petite erreur. Quoi. Enfin, Dieu me parle de mon avenir à deux. Verset 28. Comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Dieu parlait de notre vie passée, qu'il avait brisée, cassée, c'était normal. Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Si Dieu a cassé, c'est pour mieux bâtir. Si Dieu a arraché nos mauvaises herbes, c'est pour mieux planter. Enfin, Dieu me parle d'union, versets 38 et 40. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Verset 40, ils seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. La ville rebâtie, c'était notre couple que Dieu reconstruirait, non pas sur des bases anciennes, mais pour sa gloire sur des bases nouvelles. Dieu va nous consacrer, c'est-à-dire qu'il va nous utiliser pour son service et nous serons sous sa protection. Alors, je peux vous assurer que la lecture de Jérémie 31 a été pour moi une source d'encouragement. La parole de Dieu m'a fortifié, réconforté et elle a mis mon cœur en paix. 8 mois plus tard, Wardia est venu vers moi pour me demander si j'avais toujours des sentiments pour elle. Elle qui m'avait dit « Tu ne seras jamais mon mari ». Le 31 mai 90, nous nous sommes mariés. J'ai été nommé ancien de l'église de Vendeuvre en 1990 et Wardia s'est investi dans le service et la relation d'aide. Tout ce que Dieu m'avait dit dans sa parole s'était réalisé. Franchement. Alors le témoignage que je viens de vous livrer, c'est mon témoignage personnel et non pas une doctrine qui s'adresse à tout le monde. Hein. Vous ne vivrez pas tous les mêmes choses que moi, c'est sûr. Dieu parle à chacun de ses enfants de manière différente, car il a un plan de vie pour chacun et s'adresse à eux pour leur faire connaître. Car chacun a une valeur à ses yeux. Le témoignage personnel, ce n'est pas le même que Rebecca, ce ne sera pas le même qu'Amélie et que Alex. Personnellement, depuis 40 ans de vie chrétienne, Dieu me parle quasi quotidiennement par sa parole, la Bible. Il répond à mes questions, m'instruit, me rassure, me relève dans mes chutes et il guide mes pas. Vous comprenez pourquoi je lis la Bible tous les jours ? Parce que ça me fait du bien. J'y trouve vraiment un puits profond. Alors c'est vrai que Job dans la Bible dit, Job 33, verset 14, « Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. » Nous l'avons dit, Dieu se révèle par la nature, une rencontre dans le désert de nos vies, par sa parole, il nous parle, mais l'entendons-nous. Je vais vous raconter simplement une petite histoire qui s'est passée il y a 2 jours, ou hier, je crois, hier. On s'était un petit peu disputé avec Wardia. Voilà. Et puis, ça arrive, hein, dans les couples, c'est normal. On s'était un petit peu pour des bêtises. Et alors, on a pris le... Vraiment, Dieu nous avait montré qu'il fallait nous réconcilier. Donc, on est venus et on a prié ensemble pour se réconcilier. Et on a demandé que la paix soit sur notre couple. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Une colombe est venue, une colombe blanche, elle est venue sur la fenêtre, elle est restée 15 secondes, elle a marché, elle est repartie. Non mais, c'est incroyable. C'est le Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour conclure, j'aimerais encourager toutes celles et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à lire chaque jour la parole de Dieu. Même si c'est peu de temps, parce que je sais qu'on est très très pris par le travail, mais c'est une priorité. C'est une priorité et une grâce d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il nous parle, il a des choses à nous dire, il a des choses à nous dévoiler, des choses pour nous, pour notre vie. Et puis, vous pouvez lui demander des choses, et il répond. À celles et ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît. C'est une occasion ce matin. C'est une opportunité pour le faire. Ésaïe 55, verset 8. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Et ce matin, on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.